Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Muchas gracias por haber venido. Yo estoy muy emocionada porque hacía mucho tiempo que quería conocer a Virginie Despont. Es una autora de la que se habla mucho y bastante controvertida además. Creo que los autores realmente interesantes son los que causan controversia, ¿no? Porque hacen que todas las opiniones se encuentren ahí, se discutan, se debatan cosas. Entonces, bueno, para las personas que no la conocen, porque ella me decía que aquí no la conocía nadie, pero es algo que yo no puedo creer. Es una autora que ha publicado varias novelas, en Francia son muchas, en español se ha traducido Fóllame, que es su primera novela, que está en Mondadori, Perras Sabias, que está en Anagrama, Bye Bye Blondie, y tiene, o sea, entre otras, y tiene el último libro se llama La teoría King Kong Theory, que es un libro en el que se habla mucho de la condición de ser mujer en este mundo, ¿no? En esta época. Entonces, hay muchos temas ahí de los que se puede tirar y de los que podríamos hablar, y creo que podría ser una charla, yo tengo muchas expectativas, acerca del tema de ser, o sea, de vivir como mujer en este planeta. Primero me gustaría empezar por hablar un poco de los libros y de sus personajes, porque finalmente estamos en un festival de literatura, pero después les aviso que voy a desviarme hacia temas un poco más sociales. Bonjour Virginie.
Bonjour, buenas noches.
Bienvenue au Hey Festival. Donc, la première question que je voudrais te poser, c'est à propos de Bye Bye Blondie, un roman qu'on m'a envoyé récemment, et qui parle d'une fille qui vient de s'engueuler avec son petit ami et qui rencontre son ex, qui était à l'hôpital psychiatrique avec elle. Donc, on sent depuis la première page qu'il y a beaucoup de colère dans ce personnage, et j'ai pensé à ce qu'on dit toujours par rapport à la colère, que ce n'est pas un état primaire, que derrière elle se cache de la peur et de la tristesse. J'aimerais que tu nous parles de ce personnage et de ses sentiments, et je voudrais que tu nous parles aussi des hôpitaux psychiatriques que, d'après ce que j'ai lu, tu connais de près.
Donc oui, c'est un roman Bye Bye Blondie dont le personnage principal s'appelle Gloria. Et effectivement, ça commence quand elle est adolescente dans les années 80 dans un hôpital psychiatrique, qui est quelque chose qui m'a intéressé de façon autobiographique, parce que j'ai été en hôpital psychiatrique en tant qu'adolescente. Et ensuite, j'ai vu des adolescents être internés en hôpital psychiatrique, et ça m'intéressait cet endroit-là, qui n'est pas vraiment la psychiatrie, qui est vraiment être enfermé quelque part contre sa volonté, qui n'est pas la prison, qui n'est pas le couvent, qui est encore autre chose, qui est une façon de ramener les gens à la raison d'une drôle de façon, comme la prison est un drôle d'endroit pour ramener les gens vers une meilleure personnalité. L'hôpital psychiatrique est un drôle d'endroit pour ramener les gens vers la santé. Et effectivement, c'est un personnage, Gloria, qui est totalement habité, soutenu ou détruit par la colère. Et après, derrière la colère, il y a de la peur, mais derrière la peur, il y a de la colère aussi. Enfin, on ne sait pas exactement quelle est l'émotion principale, quoi. Est-ce que c'est la peur, la colère ? En tout cas, la colère, c'est à la fois... Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Là, c'est un niveau très... qui m'intéresse beaucoup de livre en livre, et c'est très personnel, parce que c'est quelque chose qui m'est... Je suis très en colère. Et à la fois, c'est quelque chose de fort parce que c'est une vraie défense, c'est une vraie énergie, c'est une vraie façon de se défendre. C'est une façon de se défendre très, très efficace. Et à la fois, c'est totalement destructeur pour soi-même et pour tout ce qui nous entoure. Donc à la fois, c'est quelque chose qui me paraît utile et à la fois, c'est quelque chose qui me paraît important à dépasser. Et je parle de ça à un niveau personnel pour chacun d'entre nous. Mais aussi à un niveau collectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec la colère collective, qu'est-ce qu'on fait avec la violence, à quoi on arrive, en gros, à la fin, au bilan, qu'est-ce que ça permet et qu'est-ce que ça empêche. Et au niveau collectif, j'ai l'impression, en tout cas en Europe, qu'on est dans un moment de grande colère et que ce ne sera pas forcément positif. Et en même temps, la colère, effectivement, c'est une étape importante. Avant la résignation étant peut-être ce qu'il y a de pire, bon, la colère au moins c'est pas de la résignation et c'est pas de la passivité quoi. Mais ça m'intéresse la colère, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Est-ce qu'elle peut être positive et utile et à ce moment-là comment. Et je sais pas encore exactement, mais c'est quelque chose que ouais, qui m'intéresse.
Mais en France, on enferme souvent les gens, non? C'est l'impression que j'ai. C'est bizarre parce que c'est un pays qui a inventé les droits de l'homme, la démocratie, où il y a beaucoup d'égalité, on cherche ça. Et en même temps, moi qui ai vécu là-bas, j'ai plusieurs amis qui ont été enfermés pendant leur adolescence dans des hôpitaux psychiatriques. Je trouve ça quand même sidérant.
En France et aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, c'est de plus en plus une pratique avec les adolescents de les faire passer par des longs séjours en plus aux États-Unis en hôpital psychiatrique. Et j'imagine que c'est c'est le seul conseil qu'on donne aux parents quand ils ne savent plus tellement comment faire avec leurs enfants. Et ce qui est étonnant quand on est passé par l'hôpital psychiatrique, c'est qu'en aucun cas, c'est un endroit où on peut se reconstruire. Ou s'exprimer, parce qu'avant tout c'est une prison, surtout en tant qu'adolescent, et surtout si c'est contre son gré, quoi. Donc, et c'est vrai que c'est une pratique. À partir du moment où on attend des gens qui soient normaux et que c'est difficile d'être normal, on aura besoin d'institutions pour les contraindre. Mais c'est vrai que on a un rapport peut-être particulier en France avec la normalité.
Et aussi par rapport à la tradition littéraire, on pourrait tracer une région dans la cartographie de la littérature française, des écrivains qui étaient enfermés dans des hôpitaux psychiatriques et qui ne sont pas les moins intéressants, tout au contraire. Enfin, je pense à Antonin Artaud, par exemple, Jean Genet qui n'a pas été dans un hôpital psychiatrique, mais en prison, et à plusieurs autres. Est-ce que tu te sens lié à eux d'une certaine manière?
J'aimerais bien, de quelque façon que ce soit, être lié à Antonin Artaud et Jean Genet, mais en tout cas, on a une tradition française de l'auteur maudit, de l'auteur pour qui c'est difficile, de l'auteur scandaleux, de l'auteur peut-être plus qu'ailleurs, on a un respect pour les auteurs qui ont du mal, quoi. Et dans cette tradition, oui, je pense que je m'inscris en tout cas, dans la tradition des auteurs un peu dans la confusion, là je m'inscris, ouais.
Et c'est les auteurs que tu lis, c'est les auteurs qui t'ont nourri en tant que lectrice et écrivain?
Pas forcément. Par exemple, par rapport à Antonin Artaud, s'est développé tout un romantisme justement de l'hôpital psychiatrique et de la folie, reprise aussi par les surréalistes, par Breton. Moi, je ne veux pas me sentir proche de ça, au sens où la folie, en soi, ne me paraît pas être un état positif, en soi. Après Antonin Artaud, peut-être qu'en France, on a un peu trop le goût de la folie, quoi. Alors que la folie en elle-même n'est pas quelque chose de souhaitable ou d'intéressant, quoi. C'est ce que j'ai appris en étant en hôpital psychiatrique, c'est que les fous sont pas... Ça n'a rien de romantique, en fait. Et je lirais plutôt des auteurs comme Bukowski, des auteurs qui travaillent sur le langage parlé, en fait, et sur le, des auteurs qui ont appris à écrire d'une autre façon qu'en allant à l'université, en fait. Ça, ça sera plus proche de moi, ou des auteurs qui travaillent sur la sexualité, ou des auteurs qui travaillent sur casser la langue, ou des auteurs qui travaillent avec la langue qu'ils ont et qui se débrouillent à partir de ça.
Oui, parce que dans tes livres, le langage que tu choisis est quand même un langage très colloquial, il y a beaucoup d'argot, et c'est des mots, souvent des gros mots que tu emploies. Et c'est avec ce langage-là que tu travailles, tu t'es inspiré plutôt des beatniks alors?
Ou plutôt de la musique, en fait, parce que j'ai été très marquée par la musique, et plutôt d'une certaine partie du rock et de l'écriture du texte dans le rock, ou d'une certaine partie du hip-hop et de l'écriture dans le hip-hop, donc un son, un rythme, et aussi effectivement l'efficacité du langage de rue, quoi, du langage parlé, parce qu'il y a une efficacité, il y a une énergie, il y a une efficacité incontestable. Après, c'est pas heureusement, il y a d'autres littératures, enfin, on peut travailler autrement, mais moi, c'est mon travail, et c'est vrai que ça m'intéresse dans ma... Ouais, c'est vraiment mon matériau. Après, le problème, c'est que c'est très difficile à traduire. Pour le passer d'une langue à l'autre, l'argot... c'est tellement particulier que ça, parce que c'est un son particulier, les argots sont très particuliers à chaque époque et à chaque endroit.
Et à chaque pays aussi.
Et à chaque pays. Et à passer d'une langue à l'autre, c'est...
On se plaint souvent en Amérique latine des traductions de Bukowski, justement, qui emploient toujours des termes espagnols qui sont complètement
déplacés,
étrangers pour nous.
Totalement. Mais Bukowski, même c'est très dur à rendre, même en français... et même par de très bons traducteurs, c'était très très dur à rendre, en fait. Ouais.
Après, j'aimerais que tu nous parles un peu de King Kong Theory. Comment est-ce que tu décrivrais ce livre? C'est un essai.
C'est un essai féministe. En fait, l'idée de ce livre m'est venue de deux choses. En l'an 2000, j'ai réalisé un film avec une amie, Coralie Trinity, qui s'appelait Baise-moi, Foyamé, et qui a été interdit. Et cette interdiction a fait qu'on a vraiment fait le tour du monde avec notre film, et que pendant une année, on a répondu à des journalistes sur des thèmes féministes. Le viol, la violence et les femmes, le X, le porno, l'utilisation de scènes graphiques dans un film. Du coup, on a été confrontés toujours du Japon au Canada, en passant par tous les pays d'Europe, à toujours les mêmes questions. Et ça m'a fait forcément quand même réfléchir. Et aussi ça m'a fait réfléchir les différences de questions d'un pays à l'autre, la différence par exemple qui me paraissait évidente entre les États-Unis et une certaine idée du féminisme ou d'un certain féminisme et l'Europe, et notamment la France. Et ensuite, la deuxième étape qui a fait que j'ai écrit King Kong Theory, c'est que j'ai vécu pendant quelques années avec une adolescente en tant que belle-mère, et ça m'a intéressé du coup. Qu'est-ce qu'on disait à une fille de 12 ans? Qu'est-ce qu'on lui disait à la radio, à la télé, dans les journaux, à l'école? Qu'est-ce qu'on lui disait sur la féminité et la masculinité? Et qu'est-ce qu'on lui disait sur le féminisme? Et ce que je me suis dit au bout d'un moment, c'est que sur le féminisme, on lui disait rien, jamais. Et que c'était pas totalement inutile pour elle, pourtant, parce qu'on lui disait beaucoup de choses sur la féminité, par contre, et jamais rien sur le féminisme. Et je me suis dit, les deux ont convergé, l'expérience de Baise-moi et le fait de vivre avec une adolescente, que j'avais envie d'essayer d'écrire un livre que de très jeunes gens pouvaient lire, c'est-à-dire un livre qu'on pouvait lire sans aucun bagage féministe, sans aucun bagage littéraire non plus, et qui permettrait au moins, peut-être pas de répondre à des questions, mais d'ouvrir des questions et de rappeler qu'il y a c'est pas rien d'être toujours considéré comme une fille dans une vie. Et que même si MTV... les radios pour jeunes gens, même si toute cette culture pop qu'on leur vend et qu'on leur survend leur donne beaucoup de conseils sur la féminité, sur la séduction et sur les rapports hommes-femmes, c'est pas inintéressant quand même des fois de se demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on nous suggère, qu'est-ce qu'on nous impose, qu'est-ce qu'on nous conseille, qu'est-ce qu'on nous interdit sur la féminité, sur la sexualité, sur le viol, sur... voilà. Et voilà.
Ici, en Colombie, mais c'est pareil en Argentine et au Venezuela et au Brésil, le pourcentage de femmes qui se font opérer, c'est-à-dire qui changent leur corps pour ressembler à ce modèle de beauté que présente la publicité, la télévision, etc., est énorme, est très très haut. En même temps, au Mexique, c'est pas la même chose, au Mexique, c'est le pays d'où je viens, il y a beaucoup de viols et il y a beaucoup de féminicides, et ces hommes donnent comme raison que les femmes, en fait, provoquent ce genre d'attitude. Et il y avait ville encore au Mexique, où il y a 2 ans, il était interdit de porter une mini-jupe. Donc, en même temps, en France, où il y a beaucoup de liberté à ce niveau-là, il y a quand même une énorme pression, comme tu disais, des médias, des magazines, de la publicité dans la rue, au cinéma, partout, par rapport au corps de la femme, par rapport à être mince, belle, jeune, etc. Il n'y a pas tellement de chirurgie esthétique, mais il y a quand même une sorte de bombardement par rapport à ça. C'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais au Brésil, et un ami qui est brésilien et qui est pas mal du tout me disait, moi je ne peux pas aller à la plage parce que je me sens vraiment pressée ou sous pression par les hommes qui montrent leur corps d'une façon trop agressive. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Plusieurs choses. Déjà, je pense quand même qu'aujourd'hui, entre l'Europe et l'Amérique latine, on a beaucoup de modèles communs, et notamment de modèles de féminité. On a les mêmes, j'imagine que vous écoutez Rihanna aussi, on écoute Shakira, on les voit beaucoup. J'imagine qu'en Amérique latine, Madonna est quand même connue, Miley Cyrus aussi. On a quand même la musique pop, et le cinéma, évidemment, nous a proposé beaucoup de modèles communs de types de féminité. Et à partir de là, si c'est possible d'améliorer son corps pour aller dans ce sens, évidemment, en France comme au Brésil, parce qu'en France aussi, il y a quand même beaucoup de chirurgie esthétique. Il faut aussi rappeler, je pense que la France, les choses ont énormément changé ces 14 dernières années, et que c'est plus du tout un pays dans lequel on est bien en mini-jupe, par exemple. Et ça a vraiment changé, de façon être dans Paris en mini-jupe, c'est plus du tout la même chose qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire quelque chose d'un retour en arrière ou d'un pas en avant, quoi. Mais ça a énormément changé. Moi, ça m'a beaucoup intéressé la première fois que j'ai entendu le mot féminicide, qui effectivement du Mexique, parce que pour la première fois, j'ai pris conscience de ce que chaque fois qu'on tue une femme parce qu'elle est une femme, et ça arrive en Europe énormément aussi, c'est vraiment politique, et qu'on a tendance, nous, en Europe, à l'oublier. Effectivement, c'est comme si les hommes étaient tellement... Vous ne pouvez pas s'en empêcher, quoi. Alors que c'est politique. À chaque fois qu'on tue une femme dans la rue parce qu'elle est une femme, on dit à toutes les autres femmes que la rue n'est pas un endroit où elles peuvent être en sécurité. On dit à toutes les autres femmes qu'elles peuvent être tuées, qu'après tout, on peut rien faire. Et le fait de lui donner ce nom de féminicide, ça me paraît vraiment important, parce que ça change complètement l'idée qu'on s'en fait. C'est plus un meurtre sexuel ou un meurtre passionnel, ou c'est vraiment une politique de comment est-ce qu'on va se sentir dans la rue. Et il y a énormément aussi de meurtres sexués, quoi, de femmes parce qu'elles sont des femmes, et de viols, énormément aussi en Europe. Je pense que ça doit être pas si loin. C'est puni par la loi, mais ça se pratique énormément et on va pas forcément porter plainte. Et moi, ce qui m'a frappé en écrivant King Kong Theory, donc qui est un livre où je parle du viol que j'ai vécu quand j'avais 15 ans, c'est le nombre de femmes ensuite qui viennent raconter leur viol. Et là, on se dit, effectivement, c'est pas une question de classe sociale, c'est pas une question de race, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de beauté ou de jupe, pas jupe, féminité, pas féminité. C'est vraiment juste une pratique courante.
Et c'est pas une question non plus d'être femme, parce que les hommes aussi se font violer.
Les hommes aussi se font violer, c'est vrai. Ouais.
En tant qu'enfant.
Et ils en parlent encore moins.
On en parle encore moins.
Encore moins. Et même en tant que jeune adulte, mais ils en parlent encore moins. Ils vont encore moins. Et c'est encore moins audible quand on en parle. En fait, j'ai compris, moi, en écrivant King Kong Theory, que c'était assez possible aujourd'hui de parler en France de son viol et d'être entendu. Je pense que pour un homme, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les conséquences sont encore plus. Enfin, il y a une hostilité encore plus forte de la part des gens qui écoutent, quoi. Mais effectivement, cette chose de dire aux femmes qu'en gros, elles provoquent la situation dans laquelle elles sont, ça, c'est un vieil argument. Enfin, effectivement, il faut être à la fois un encouragement à la féminité constante et à la fois un reproche de la féminité. Comme si, en fait, les hommes ne pouvaient jamais être responsables entièrement de leurs décisions, de leurs actes et de leur politique. Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une façon de nous maintenir dans une peur d'être à l'extérieur et dans une non-légitimité d'être à l'extérieur qui est importante. Mais il me paraît vraiment important de souligner qu'en Europe, aujourd'hui, on est dans une situation très très différente. Enfin, j'ai l'impression, quand je voyage à l'étranger, qu'on a encore une vision de la France telle qu'elle a été dans les années 70-80, et les choses sont en train de changer très très vite chez nous. Et en Amérique latine aussi, mais chez nous, c'est vraiment pas dans le bon sens. Enfin, c'est dans un sens très particulier.
Socialement, enfin, par rapport à la société, on a l'impression que bon, mai 68 a été vraiment une rupture énorme qui a inspiré beaucoup de pays et qui a été un pas en avant mais colossal. Par rapport à mai 68, on est où, surtout en France, on est où en tant que société ?
En tant que société, on peut parler...
Par rapport au sujet dont on parle, non ?
Non, mais... En France, en tout cas, il y a un mouvement de recul par rapport à mai 68, ouais, qui a été très exprimé par le président précédent, Nicolas Sarkozy, qui a dit très clairement que son ambition était d'en finir avec mai 68. Mais il n'est pas tout seul. Ça a été vraiment toute une partie de la France. Et après, c'est... Je pense dans beaucoup de pays, mais ces années-là, les années 70 ont été importantes. Aussi parce que ça a été des moments de... Pour certains pays riches, de facilité du capital, du capitalisme. Aujourd'hui, on est dans un état de crise, en Europe en tout cas, plus fort que dans les années 70. Et évidemment, ça change énormément de choses. Et le capitalisme peut-être se dit, enfin moi c'est ma théorie, qu'il n'a pas besoin de la critique de mai 68, et qu'effectivement maintenant il faudra en finir avec cette critique, qui vient avec beaucoup de choses, quoi. La critique de 68, c'est une critique du mainstream en général, mais c'est aussi une critique, ça va venir avec beaucoup de revendications salariales, beaucoup de revendications de chaque personne, beaucoup de revendications des minorités. Et je crois que le capitalisme en Europe se dit qu'il peut très bien se passer de tout ça pour exploiter, pour être dans un rapport différent. Et donc, disons que là, c'est pas le moment le plus facile pour... C'est pas le moment le plus optimiste, quoi, pour les gens qui pensent toujours que mai 68 a été un moment intéressant et une rupture intéressante.
Moi, toi, tu es né en 1969, moi je suis née en 1973. Mes parents étaient assez jeunes quand ils m'ont eu. Il n'y a finalement pas tellement d'écart entre toi et moi au niveau de l'âge. Mais je fais quand même partie d'une génération où les parents étaient des 68ards. Et je ne sais pas si c'est ton cas. Je ne connais pas ton histoire.
Oui, oui. Et mes parents étaient jeunes aussi et ils étaient directement concernés par 68 comme travailleurs, mais oui.
Et je me souviens qu'en étant enfant, il se passait plein de choses qui ne se passent plus maintenant et qui ne se passaient pas avant. Les parents, ils avaient envie de changer les chemins de famille, ils avaient envie de changer les rapports enfants-parents, ils avaient envie de changer le rapport de couple et surtout de s'ouvrir, disons. Mes parents, ils ont eu un couple ouvert, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aller voir qui ils voulaient et puis amener des gens à la maison. Et c'est pas... Je ne suis pas la seule, je fais partie d'une génération comme ça. Ma mère était féministe, elle a milité pour le droit à l'avortement au Mexique, ce qui n'était pas évident à l'époque. Et pour moi, tout ça, c'était des choses révolues. J'ai grandi en me disant que tout ça, c'était des droits acquis, que de toute façon, c'était des histoires de mes parents, de la génération précédente, Et je trouve maintenant qu'on est dans une... Enfin, ma génération est beaucoup plus conservatrice que celle de mes parents, disons. Enfin, les gens, mes amis, en général, ils ne se séparent pas ou ils tardent beaucoup à se séparer. Ils préfèrent garder la famille traditionnelle et ils font tout. Même, ils se sacrifient d'une façon que je trouve un peu triste pour garder tout ça, tout ce qu'ils n'ont pas eu, pour donner à leurs enfants tout ce qu'ils n'ont pas eu. Mais je me demande si on ne fait pas un pas en arrière par rapport à ce que les autres ont grandi, enfin, ont gagné, et si on n'a pas, si on n'est pas en train de perdre des droits, disons.
Je pense qu'on est en train de perdre un héritage, mais à la fois, j'ai l'impression que les choses qui se sont passées dans les années 60 et 70, dans beaucoup de pays, c'était des choses extraordinaires. C'est-à-dire, ce qui peut conduire, avec des exemples idiots, mais je pense qu'en 60, on n'imaginait pas que 60 ans plus tard, le président des États-Unis serait noir, que le maire à Paris serait homosexuel, que... On pourrait vivre ensemble, des femmes qui vivent ensemble sans avoir aucun problème avec les voisins ni les autorités. Je pense aussi quand même que quelque chose s'est passé qui a été très... Une vraie révolution a eu lieu à plein de niveaux. Et on a eu l'impression que c'était facile et enfin, ça a été facile et naturel. Et elle n'a pas eu totalement lieu, mais quand même beaucoup de choses ont totalement changé. Et peut-être qu'il faut que dans toutes les révolutions, il y a des restaurations, des moments de retour en arrière, et ça ne veut pas dire que sur le long terme on a perdu. Ça veut dire, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a un moment où on revient un peu en arrière et où ça se crispe un peu, et où ça ne veut pas dire que c'est terminé, que la révolution est terminée et qu'on a tout perdu. Ça veut dire qu'on n'est pas au mieux de notre forme. Enfin, ça veut dire que c'est pas le meilleur moment maintenant, mais il y a tellement de choses qui se sont passées. Peut-être que cette crispation des gens qui ont eu le pouvoir quand même pendant des siècles, les religieux. L'ordre religieux, quel qu'il soit, que ce soit... Ils ont perdu la main pour la première fois, vraiment, pendant quelques décennies, quoi. Donc, bon, là, ils reprennent un peu du bois. Bon. Mais je pense pas que ça veut dire que les gens qui sont des petits-enfants maintenant, ça veut rien dire sur leurs aspirations et ce qu'ils vont vivre dans 20 ans. Et j'aime croire que tout ce qui a été filmé, écrit, la musique, tout ce qui a existé, de toute façon, ça va se transporter. Et peut-être que les récepteurs, qui sont des petits bébés maintenant, peut-être qu'on sera surpris par leurs revendications et leur façon de refaire les choses et de reprendre le dossier et d'avancer encore. On peut pas... Je suis pas contente de sentir... En France, en ce moment, il y a des manifestations d'extrême droite très virulentes. Ça me choque, ça me peine, ça me fait peur. Mais à la fois, je me dis, bon... On ne les a pas entendus depuis 50 ans, on les entend 2-3 ans, ça va passer, quoi. Et je crois j'espère, et moi je le crois, que les gens qui sont plus jeunes repartiront de plus belle et recontinueront ce mouvement et qu'ils romperont avec la famille comme on l'a connue, l'hétérosexualité, j'espère avec l'ultralibéralisme, et j'espère que les gens ne font pas des enfants pour rien, quoi. J'espère qu'ils vont lire ces livres, qu'ils vont lire ces textes, qu'ils vont aussi revenir là-dessus et puis aller encore plus loin, quoi. Et que là, c'est juste comme une saison, quoi. Mais effectivement, c'est pas une saison géniale.
Si, à l'époque de ma mère, il y avait quand même cette idée que le féminisme, c'était lutter contre les hommes, que c'était les hommes les responsables de la situation des femmes. Et c'est quelque chose que, bon, quelque part, était vrai. Mais je pense que là, maintenant, à cette époque-là, je ne sais pas si je donnerais toute la responsabilité aux hommes. Je pense que le fait d'être bombardé par la publicité, etc., n'est pas une question de sexe et de se assujettir à ce canon de beauté, disons, et de comportement, n'est pas une question de guerre de sexe. Qu'est-ce que tu en penses de ça ?
Déjà, moi aussi, ma mère était féministe. C'était une féministe vraiment militante, mais qui a été toujours très critique de l'attitude des femmes. Parce qu'on a quand même toujours été très promptes à se soumettre et à... On a toujours beaucoup participé quand même à ce qui nous arrive. Ceci étant dit, la propagande, il y a une propagande quand même, si on regarde par exemple les films, qui sont quand même une partie importante, ou les jeux vidéo, qui sont quand même des parties importantes de notre imaginaire. Là, il n'y a pas eu de révolution féministe dans le cinéma de Hollywood, par exemple. La propagande, elle est toujours allée dans le même sens, tout le temps, tout le temps. Donc c'est aussi difficile de... C'est pareil dans l'industrie de la musique, c'est pareil... La littérature peut-être est un peu à part, mais dans une grande partie de la culture populaire qu'on mange, et la publicité évidemment, on ne peut pas dire qu'on nous ait beaucoup aidé à nous émanciper et à se dire que peut-être le plus important n'était pas la séduction, que peut-être le plus important n'était pas... la fémininité au sens de la même façon. Par exemple, moi j'ai l'impression d'une propagande très forte en Europe depuis une quinzaine d'années pour que les femmes fassent des enfants et qu'elles comprennent que rien ne sera jamais mieux pour elles que faire des enfants. Et je ne sens pas une contre-propagande, enfin je ne sens pas la place pour une contre-propagande. Et quand même, les grandes entreprises, les grands journaux, les grandes boîtes de production de cinéma sont quand même toutes détenues par des hommes. Je crois que quand on est propriétaire de toute une série de privilèges, spontanément, on va quand même y aller doucement sur le... Enfin, on va essayer de ne pas perdre nos privilèges, quoi. Comme je vois les choses, les hommes sont quand même comme les propriétaires et les femmes les locataires du monde. Bon, les propriétaires ont pas envie de donner les clés des appartements spontanément. Donc, encore une fois, je crois qu'à un moment donné, il faudra revenir et retaper et prendre les instruments de pouvoir, notamment de propagande, pour pouvoir quand même imaginer d'autres... Élever les enfants, par exemple, dans d'autres conditions que toujours les mêmes types de dessins animés, toujours les mêmes types de jeux vidéo, toujours les mêmes types de quand même de contes qui sont quand même répétés, c'est constant, quoi. Et ça concerne la féminité, la masculinité, ça concerne l'hétérosexualité, ça concerne la maternité, enfin ça concerne, et c'est tout un ensemble de choses, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est chaque jour, le message est le même. Donc à la fois je pense qu'on est totalement responsable, à la fois quelque chose me fascine, quand je vois en Espagne ou en France des femmes intervenir contre l'avortement, parce que ça paraît contre le mariage gay, ou enfin, quelque chose qui, l'alliance devrait être tellement naturelle entre femmes pour ces choses-là. Mais n'empêche que on n'est pas aidé, quoi. Enfin, on n'est pas. Mais ça, encore une fois, je pense quand même que c'est une révolution récente, c'est une révolution massive, c'est une révolution peut-être pas mondiale, mais qui a eu lieu dans énormément de pays. Il s'est passé quelque chose de vraiment important ces 40 dernières années, quoi. Donc encore une fois, j'espère que les petites filles, les petits garçons, parce que les petits garçons aussi auraient intérêt à un moment donné à se dire stop, quoi. J'ai pas envie d'être le petit garçon comme on me demande de l'être, et notamment j'ai pas envie de donner la mort. Quand on regarde dans les films, les hommes apparaissent toujours énormément avec des armes. Peut-être qu'à un moment donné, les garçons se diront aussi j'ai envie d'être représenté autrement que dans ma violence, quoi. Enfin, peut-être que les uns les autres, à un moment donné, on sortira de...
Et au-delà de cette histoire d'image et de corps qui est très intéressante, je repense au personnage de Gloria dans Bye Bye Blondie. C'est une fille qui a l'impression d'être une ratée et de souffrir et d'avoir souffert toute sa vie. Et derrière, il y a cette histoire, cette idée de si on ne réussit pas une histoire d'amour, on est une ratée. Est-ce que, je ne sais pas, j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qu'on reçoit justement du cinéma, de la publicité. Pourquoi on ne pourrait pas être quelqu'un à succès sans avoir jamais réussi une histoire d'amour? Et d'ailleurs, c'est quoi réussir une histoire d'amour? Se marier, avoir des enfants?
Mais il y a deux choses dans la question, parce que déjà, effectivement, il y a quand même une propagande tout le temps que les femmes doivent réussir dans leur hétérosexualité par rapport aux hommes, et donc par rapport à l'amour, ou la maternité. La maternité étant une forme d'amour acceptée, quoi. Mais il y a aussi toujours la propagande de ne pas vouloir être un raté, alors que pour la plupart d'entre nous, la sensation qu'on aura quand on aura 60 ans, c'est d'être des ratés, et que je crois qu'il faudrait qu'on se réconcilie avec ça. Pour la plupart d'entre nous, on aura l'impression d'avoir échoué, et c'est comme ça, quoi. C'est pas grave.
Ça fait quand même des personnages littéraires attachants, les ratés.
Ouais, quand même. Et puis c'est ce qu'on sent, là, pour la plupart d'entre nous, je crois que c'est ce qu'on ressent, à juste titre ou pas, on s'en fout, c'est ce qu'on sent. Il faut aussi se réconcilier avec le perdant, le
Mais
raté.
Ça aussi, ça a à voir avec le système éducatif même, enfin le système d'éducation, qui Je me souviens, moi, j'ai grandi, j'ai subi l'éducation française. Avoir un 20 sur 20, c'est quelque chose d'impossible. Ou qui arrive une fois ou deux fois dans la vie, et dans des matières qui sont précises, quoi. Si, jamais en philosophie, disons. Jamais en français. Et seulement en dictée, par exemple, là, parce que c'est impossible.
Ou en maths.
Ce qui m'est jamais arrivé, je l'avoue. Et... Mais il y a quand même cette idée qu'on rattrape de toute manière, enfin, qu'on ne sera jamais parfait, que c'est impossible et que c'est quelque chose à laquelle il faut aspirer, mais qu'il ne faut pas se sentir comme ça. Alors qu'il y a d'autres cultures, je pense à l'Inde par exemple, où tout est parfait tel qu'il est. Et les mystiques, ils disent ça dans toutes les cultures. La vie est parfaite telle qu'elle est, sauf que nous, on ne la voit pas comme ça.
Mais je ne sais pas si l'Inde, si vraiment le capitalisme continue à exercer le travail qu'il a exercé là-bas. Je pense qu'un jour ou l'autre, il me semble que ça va ensemble, les Indiens aussi voudront réussir. Et être parce que c'est une vision très, très guerrière de la vie, le libéralisme. Il y a les vaincus, il y a les perdants. Et de plus en plus, on méprise des... Alors que... Et ça se voit même en littérature, en France par exemple, très longtemps, on a aimé les auteurs qui ne vendaient pas, qui n'étaient pas connus, on les a respectés même pour ça, et de plus en plus, ce qu'on respecte, c'est les poids lourds, quoi. Les gens qui vendent beaucoup, parce que ça, c'est une réussite prouvée, quoi, facile à combien tu vends beaucoup, donc c'est intéressant, et ça c'est pareil, ça fait partie des ruptures avec mes 68. Mépriser les vaincus. Et je pense que l'Inde, ou je pense qu'à peu près n'importe quel pays soumis au libéralisme, à un moment donné, se met dans ce qui est le meilleur, qui est le numéro un, qui gagne le plus, qui rapporte le plus, qui... Et ça se voit même dans les jeux, j'imagine que les jeux de télé-réalité sont les mêmes en Amérique latine et en France. Les jeux de télé-réalité, c'est exactement ça, qui exclut, qui est gagnant, qui tient le plus longtemps, et ça devient comme une espèce, en soi-même, être le gagnant devient un but, quoi, être le gagnant de rien, être le gagnant de...
Les États-Unis, ouais.
Et les États-Unis, enfin, qui sont les premiers à... Mais je crois que ça s'est répandu partout, et ça, c'est vraiment une super métaphore d'un système économique, c'est-à-dire qui est numéro un de quoi? De rien, mais numéro un d'avoir exclu tous les autres, en fait. Et ça, pareil, j'imagine qu'à un moment donné, on va en finir avec ça. Enfin, je le crois. Ça ne se fera pas tout seul, mais qu'à un moment donné, on arrivera au bout de cette logique-là. Il faudra bien trouver une autre logique dans laquelle, effectivement, réussir à tout prix et sa vie amoureuse et sa vie professionnelle et sa chirurgie esthétique et sera plus une préoccupation. Enfin, j'espère.
Quand je parlais de l'Inde, je ne pensais pas du tout à la société. Tu as tout à fait raison. Je pensais plutôt aux textes mystiques, etc.
Mais si on regarde des textes en eux-mêmes chrétiens, ça doit être pareil. On n'est pas... Jésus ne va pas mettre des coups de pied aux vaincus. Et,
non, il recevait les lépreux, etc.
C'était, ouais, c'était une autre... les textes en eux-mêmes, on n'était pas partis pour ça, quoi.
Oui.
On arrivait à ça, mais...
Dans King Kong Theory, tu parles aussi de deux sujets qui sont toujours tabous. Celui de la prostitution... Et c'est lui de la pornographie. La pornographie se vend énormément, mais les gens n'aiment pas en parler. Je pense que tu as des choses intéressantes à dire à ce sujet-là. Surtout au niveau de la prostitution, tu dis que toi-même, tu as pratiqué ce métier. Et ce que j'ai trouvé vraiment adorable, c'est que tu dises que c'est un métier beaucoup moins sale que de faire de la publicité et d'être dans les médias. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça?
En fait, quand j'ai pratiqué la prostitution assez rapidement, en fait, pendant 3 ans étant jeune, j'avais moi-même, quand j'ai commencé, beaucoup d'a priori. Je pensais que les filles qui se prostituaient étaient des paumées, des pauvres filles. Et puis j'ai rencontré les filles avec qui je travaillais et je les ai trouvées super moins paumées que moi. Beaucoup plus cultivée, beaucoup plus alerte, totalement différente que ce que l'a priori que j'en avais, quoi. Donc ça a déjà beaucoup changé mon avis sur la question, parce que j'ai rencontré des filles plutôt, plutôt intéressantes, quoi, et souvent volontiers brillantes, après qui n'étaient pas aptes au travail normal et qui avaient envie de gagner de l'argent vite ou qui étaient plus... plus aventurière peut-être que d'autres, mais qui n'était absolument pas l'idée que je m'en faisais, quoi. Donc déjà ça a changé, et ensuite en faisant le travail, je me suis rendu compte qu'il y avait un travail en lui-même et que c'était pareil, c'est pas ce qu'on nous, l'idée qu'on s'en fait tout le temps d'un échange sordide. C'est un travail, en fait, c'est un travail si tu l'aimes bien et si tu le fais bien. C'est plutôt un travail gratifiant, pas seulement économiquement, mais aussi dans le type de rapport qu'il implique avec l'homme. Je crois que c'est un des. Moi, c'est le travail, je crois, où j'ai le plus aimé les hommes, parce que c'est la situation, leur sexualité, qui me paraît. Où ils me paraissent le plus intéressant et le moins. Finalement, le moins en position de pouvoir de tous. Parce que c'est ben, un homme qui se déshabille, ça reste un homme qui se déshabille, c'est moins. C'est pas le. C'est pas ton supérieur hiérarchique au supermarché. Et du coup, c'est pas, et le rapport à plein de niveaux m'a semblé. Alors après, c'est un type de prostitution particulière qui est évidemment consentie, bien payée, enfin, c'est, mais qui existe. C'est la prostitution que je pense que beaucoup de jeunes filles exercent pendant leurs études. Et ça n'a pas été vraiment, mais vraiment pas le travail le moins intéressant de tout ce que j'ai fait. Et au moins, j'avais l'impression de comprendre ce que je faisais. Qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu apprends à faire. Et du coup, dans les débats qu'il y a eu en France récemment ou qu'il y a en Allemagne en ce moment sur la légalisation de la prostitution ou sur la criminalisation des clients, moi, c'est vrai que je suis vraiment du côté des gens qui pensent qu'il faut légaliser la prostitution et faire en sorte que ça devienne un métier comme un autre et un métier de service, quoi. Parce que oui, il y a un service rendu. Oui, il y a quand même une expertise. Il faut apprendre des choses pour être une bonne prostituée. Il faut avoir des qualités pour être une bonne prostituée. Il faut avoir des dispositions. Et je crois, pour les gens que j'ai rencontrés, bah, qu'il y a des filles qui le font super bien et que ce serait bien de le reconnaître. Et que c'est, qu'il n'y a pas de raison que ce soit un travail à part. Et en tout cas, je ne vois pas le mal que ça fait.
Mais on a, enfin, l'idée qu'on a de la prostitution, surtout en Amérique latine, mais je pense que c'est généralisé, c'est que les prostituées sont des esclaves d'un macro qui les contrôle et qui prend le 70% ou 90% ou 100% de leur salaire. Est-ce que c'est souvent le cas ou c'est juste une idée qu'on a
En Europe, en tout cas, en France, il y a une grande partie de la prostitution qui est une prostitution esclavagiste, effectivement, de jeunes filles qui viennent soit de l'Est, soit de l'Afrique et qui n'ont pas le choix et qui n'ont plus de papier et à qui on prend 100% de ce qu'elles gagnent. Mais ça, c'est le même problème que des gens qui sont dans la délinquance ou dans la mendicité, obligés et travaillant pour d'autres gens, c'est-à-dire l'esclavagisme, le fait d'utiliser le fait qu'il y a des frontières et qu'il y a des gens qui sont sans papier, donc on va pouvoir les contraindre, soit à la prostitution, soit à plein d'autres façons de ramener de l'argent. Pour moi, c'est séparé de la prostitution, c'est-à-dire il y a la prostitution consentie. Et à ce moment-là, non, la plupart des filles, surtout avec Internet maintenant, travaillent pour elles-mêmes, travaillent toutes seules et organisent leurs heures de travail, leur type de client. Et ça, c'est, y a quand même, ça concerne une grande partie de la prostitution. Et effectivement, on veut toujours qu'il y ait un Mac derrière et des Macs, pas des macros, il y en a, mais... Moi, la plupart du temps, j'ai rencontré quand même beaucoup de prostituées, elles n'ont pas de Mac. Parce qu'il faut comprendre que c'est en 2 jours on gagne le salaire moyen d'un mois de travail. Donc, c'est une motivation, quoi, quand même.
Et la pornographie ?
Bah, c'est vrai que ça, pareil, dans ce que je raconte dans King Kong Theory, beaucoup de choses viennent de Baise-moi, le film qu'on a fait ensemble. Moi, je regarde énormément, enfin, je regardais en tout cas énormément de pornographie hétérosexuelle mainstream. Ça m'a toujours plu. Après, du coup, j'ai rencontré les filles qui jouaient dans ces films et j'ai eu des amitiés très fortes avec plusieurs, notamment avec les 3 filles avec qui j'ai fait Baise-moi. Et je trouve très. J'ai toujours l'impression, quand on en parle, que les gens réussissent plus du tout à penser la pornographie. Alors que la pornographie, c'est un cinéma de genre, exactement comme le cinéma, les films d'horreur, exactement comme les films violents, exactement comme les films policiers. C'est-à-dire qu'elle ne représente aucune réalité.
Il y a des réalisateurs plus doués que d'autres.
Il y a des réalisateurs et des acteurs plus doués que d'autres. Ce qui est super particulier avec la pornographie, c'est que comme elle est sortie du marché financier, elle n'a pas d'argent, parce qu'elle est soumise à des impôts particuliers, à des conditions d'exploitation très particulières, qui font qu'on ne peut pas faire une pornographie comme on ferait n'importe quel autre cinéma, alors qu'en tant que tel, c'est juste un cinéma de genre, c'est pas le moins intéressant. Moi, j'ai l'impression que souvent, on essaye, du coup, il y a tout un cinéma classique qui essaie de faire de la pornographie, mais sans aller jusqu'à la pornographie. Et c'est sincère, le fait qu'on n'ait pas le droit de filmer vos parties génitales, quoi, en action. Je comprends pas bien. Enfin, ça m'a jamais.
Mais ce n'est pas que le cinéma qui est concerné, non ? Il y a aussi des photos qui circulent de façon clandestine.
Ben, ça circule. C'est exactement comme la prostitution. Une fois qu'on l'interdit. Et comme la drogue, c'est vrai. Hein. Une fois qu'on l'interdit, on met les gens dans des situations très particulières pour. Alors que si on le sortait de cette interdiction et qu'on considère, voilà, il y a des gens qui vont faire de la pornographie et des gens qui vont la regarder, et c'est pas très grave, tout changerait, quoi. Si la pornographie avait les mêmes moyens que les cinémas d'horreur, je pense qu'on. Et après, il y aurait les mêmes problèmes que le cinéma mainstream, c'est-à-dire est-ce que d'autres gens peuvent faire de la pornographie une autre pornographie ? Ça veut dire après, il y aurait le même problème qui se pose pour tout le cinéma. Est-ce qu'on peut avoir de l'argent pour représenter d'autres sexualités, d'autres corps, d'autres. Mais ça, c'est le même problème dans le cinéma en général ou dans la culture en général, quoi.
Avant de laisser la parole au public, j'aimerais bien que tu nous parles du panorama de la littérature française qui t'intéresse en ce moment. Quels sont les auteurs, oui.
En France.
Ou en francophone.
Moment,
hein.
Je dis beaucoup. Comme j'ai beaucoup suivi Béatrice Preciado en Espagne, j'ai lu beaucoup d'auteurs sud-américains. Et évidemment, j'ai été passionné par Bolaño, comme beaucoup de gens, par Castellano Moya, par Santiago Gamboa. Et j'aime beaucoup la littérature sud-américaine, parce que ce que j'en lis petit à petit. En France, évidemment.
Ou dans la littérature francophone, parce que.
Aujourd'hui, on voulait écouter Daïna Ina, mais qui n'est pas francophone, en fait, c'est un Kenyan, il est anglophone. Mais c'est pareil, c'est un auteur africain. En France,
Bon, c'est pas obligatoire, tu
vois. Non, mais parce que c'est. Ouais, évidemment, je lis Houellebecq, qui est notre plus, qui est un peu comme notre Beatles, quoi. Et ça m'intéresse, Houellebecq. Mais. En fait, en France, ouais, je ne suis pas. Et évidemment, je lis Emmanuel Carrère, qui est ici. Enfin, évidemment, je lis un peu tout le monde, mais. On a eu un moment, dans les années 90, où beaucoup d'auteurs sont arrivés, c'était assez intéressant. Et puis maintenant, on est un peu redescendu. Moi, dans le rapport que j'ai avec la littérature française, en ce moment, on n'est pas dans un moment de. Où ça me passionne. Je m'intéresserai plus à des auteurs, effectivement, sud-américains, ou toujours à relire des auteurs. Français, mais plus ancien. Mais ça va, on a plein d'auteurs français bien. Mais c'est juste que là, j'aime Annie Ernaux, j'aime plein de gens, mais je ne vais pas me faire d'ennemis. Mais disons quoi, c'est pas la décennie la plus intéressante dans la littérature française.
Okay. Bueno, pues ahora si quieren hacer preguntas, creo que es el momento indicado. Si hay, les van a pasar el micrófono.
Bonsoir, merci pour votre exposé. Je pense à votre séjour dans une institution psychiatrique et aux expériences que vous avez eues donc en tant que travailleur du sexe. Est-ce que ça a motivé ou il y a eu une influence de ces vécus dans le développement de votre choix comme écrivain, les sujets d'écrivain, et ainsi que au cinéma?
Est-ce que ça a motivé ?
Est-ce que vous avez été influencé pour faire le choix de cette ligne d'écriture dans l'érotisme ou la porno ?
J'entends pas bien.
J'ai entendu, ouais. Je pense que ça m'a donné un matériau qui m'est propre et à partir duquel j'aime travailler. Après, ça n'a pas. C'est pas ça qui m'a conduit à l'écriture. Mais c'est un matériau, c'est une expérience directe que je revendique et que qui me paraît précieuse. Pas toujours facile à travailler, mais précieuse. Ouais. Et d'expérience directe et de rencontre. Et de type de, oui, de sensation ou de colère ou de. Oui.
Sí, Una pregunta que sale un poco de las reglas, porque si bien es para la entrevistadora, tiene que ver con el tema del feminismo y con el tema de la psiquiatría. Yo estoy muy intrigado, pero tal vez le pueda ayudar ella también a contestar, aunque usted sea la autora, ¿por qué en su libro, donde habla de una niña que siente que hay otra niña dentro de ella y la llama la cosa y la foto, aparecen dos niñas, ¿por qué el libro no se llama La huésped, sino El huésped? Finalmente, ¿ese ser es un hombre o es una mujer?
No, no tiene... es la cosa también, ¿no? Dentro del libro se llama La cosa. Entonces es como algo sin forma, que no tiene sexo, digamos.
Sí, aquí. En Fóllame y también en Teoría King Kong, a mí me parece que una de las ideas como más potentes o de las que más me habla a mí es esta idea de por qué las mujeres no reaccionamos con más violentamente a lo que nos sucede. Lo raro es que no reaccionemos con más violencia. Ahora que te escuchaba hablar algunas cosas, sentía como esa idea perdida, la idea de dejar, digamos, la potencia que tiene la rabia. No sé si el problema, la idea se pierde en la traducción, pero me gustaría otra vez preguntarte. ¿A ella le están traduciendo?
No, el problema no. Es que no oído bien.
No se oye, hay mucho eco.
Vuelvo a decir que a mí me parece que en Teoría King Kong y en la película una de las ideas que tiene más fuerza es esto de por qué las mujeres no reaccionamos con más violencia, que lo raro es que no reaccionemos con más violencia frente a las cosas que nos pasan. Ahora con algunas de tus respuestas, y no sé si es porque se pierde en la traducción o por eso quiero preguntarlo de nuevo, o si has cambiado de opinión, esta idea de la potencia que tiene la rabia, digamos, de dejar salir la rabia para reaccionar, que reaccionemos las mujeres frente a las cosas que nos pasan. Quisiera escucharte sobre eso.
Je peux traduire. Elle dit que dans ton livre, tu te poses la question pourquoi les femmes elles ne réagissent pas plus violemment à ce qui nous arrive ou à notre situation, et elle voulait que tu parles de ça.
Pourquoi les femmes réagissent pas plus violemment Est-ce que j'ai changé d'idée? Non, j'ai pas changé d'idée. Ah non, j'ai pas changé d'idée, mais la violence, non, j'ai pas changé d'idée du tout. Mais j'ai pas l'impression dans le livre de demander aux femmes pourquoi est-ce qu'elles réagissent pas plus violemment. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que quand les hommes, par exemple, pensent au viol et qu'ils font des films sur des femmes qui ont été violées, ce qui m'intéresse, c'est de voir que eux, immédiatement, la violence est la violence la plus radicale, leur paraît être une option évidente. Ce qui fait que ce que les hommes viennent nous dire quand ils font des films avec des femmes qui ont été violées et qui utilisent une violence, c'est-à-dire Kill Bill ou L'Ange de la Vengeance, enfin les films d'hommes sur ce qu'on appelle Rape and Vengeance, ce qui m'intéresse, c'est que les hommes, ce qu'ils viennent nous dire, c'est en fait, si vous n'êtes pas ultra-violente après un viol, c'est que vous n'avez pas vraiment envie de vous venger, quoi. Alors que, par exemple, pour avoir fait Baise-moi, un film un tout petit peu violent, j'ai appris, et en me l'apprenant à moi, on l'apprend à toutes les femmes à un moment donné, que la violence ne devait jamais être utilisée par une femme. Et je pense que, et du coup, j'ai pas l'impression du tout dans mes livres de dire aux femmes, vous devriez prendre une kalachnikov et mettre une balle dans la tête au premier qui vous prend la tête, parce que je suis bien placée pour savoir qu'à chaque fois qu'on ose ou qu'on envisage d'utiliser la violence masculine, la même que les hommes, on est puni 10 fois, 100 fois ou 1000 fois plus fort. C'est aussi ce que je dis dans Bye Bye Blondie. Évidemment, le personnage de Bye Bye Blondie, Gloria, ne serait pas internée comme adolescente si elle était un petit garçon. On enferme beaucoup plus les petites filles que les petits garçons. Donc je crois, je ne change pas d'avis au sens où je ne dis pas aux femmes pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas la violence. J'essaie de dire, je sais très bien pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la violence. C'est qu'on nous empêche d'utiliser la violence comme si on était des hommes. Et après, on a le culot de venir nous dire qu'on devrait peut-être être un peu plus violente quand on nous agresse. Mais l'enseignement de ce que les femmes et la violence, ça doit être deux choses différentes et que la violence, ce n'est pas pour nous. Je le sens comme étant constant. Donc, enfin, j'espère que dans mes livres, jamais je donne l'impression de demander aux femmes pourquoi elles ne sont pas plus violentes, parce que vraiment, je sais pourquoi elles ne sont pas plus violentes. Et ce n'est pas une question de caractère ou de douceur essentielle. C'est que vraiment, on nous punit très très fort à chaque fois qu'on est violente, de la même façon qu'on récompense les petits garçons quand ils sont violents, et les jeunes gens, et les garçons, et qu'on trouve toujours normal qu'un homme soit hyper violent. Si un jour une femme se met à tuer des hommes tout à fait gratuitement, comme les hommes le font tout le temps contre les femmes, on sait très bien que la réaction sera beaucoup plus forte que ce qu'on fait aux hommes. Les hommes qui tuent des femmes parce qu'elles sont des femmes, en gros, c'est mal, mais c'est normal. Si demain, moi, je vais tuer des mecs uniquement parce que c'est des mecs et que j'en égorge 15, je suis sûr que ça sera une affaire mais mondiale et une affaire historique et une affaire d'État, alors que les hommes, c'est tous les jours, tout le temps, et on nous apprend à trouver ça normal. C'est pour ça que je trouvais vraiment intéressant le terme de féminicide qui venait du Mexique, parce que ce terme-là nous permet de nous souvenir que c'est pas normal et on n'a pas le trouvé normal. Mais non, enfin. Et après, est-ce que j'aimerais que les femmes se promènent dans la rue avec des lames de rasoir et masculent les hommes Non, peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, peut-être que c'est pas la solution, quoi. Peut-être que, peut-être effectivement, ce qui serait mieux serait une réflexion de la part des hommes et un retour en arrière sur leur rapport à la violence, plutôt que dans les fêtes. Je sais pas si je trouverais ça. Je sais pas.
Il y a une autre question qui me vient maintenant, c'est que, enfin, pour parler d'un autre sujet. Attendez deux secondes. Sur la l'homosexualité, un sujet qu'on n'a pas encore abordé. On a l'impression, enfin, les hommes, quand ils racontent leur homosexualité, ils disent qu'en réalité, ils avaient une nature cachée, qui était derrière quelque part, et que finalement, ils ont osé révéler qui ils étaient en réalité. Alors que les femmes, j'ai l'impression, surtout celles que j'ai rencontrées, qu'ils pensent plus comme une sorte de choix de vie. D'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup plus naturel et c'est moins violent pour une femme, je pense, ce passage vers l'homosexualité que pour les hommes. Mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que tu as vraiment, tu dis que tu es devenue lesbienne à 35 ans, est-ce que tu as retrouvé une nature qui était cachée quelque part ou je sais pas, comment est-ce que tu as fait cette...
Ce qui a été un choix, c'est de... j'étais contente de l'assumer et de pouvoir le dire publiquement et de me définir comme lesbienne à 35 ans.
Mais ça, tu n'étais pas hétéro, tu faisais semblant d'être hétéro
non.
Quand tu étais hétéro.
Non, ce qui me surprend, j'ai pas de réponse à ça. Ce qui m'a surprise à 35 ans, c'est d'avoir attendu 35 ans pour devenir lesbienne, quoi. Mais avant ça, je m'étais pas posé la question, mais j'aurais souhaité me la poser plus tôt, parce que ça a été une chose plutôt positive, quoi, pour moi. Et je pense effectivement que le tabou est un peu différent, mais que quand même une femme qui perd son rapport aux hommes, c'est embêtant. Enfin, c'est pas le même... c'est effectivement peut-être pas... On brise pas exactement le même tabou, mais on sort d'un marché... et c'est important aussi, quoi. C'est pas sans conséquences non plus. Mais bon, pour moi, c'est ce qui m'est arrivé probablement de mieux dans ma vie, donc je suis...
Mais on parle souvent de la difficulté des rapports entre hommes et femmes parce qu'on est tellement différents, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, parce que les hommes, ils attendent des femmes, enfin, des choses que les femmes ne sont plus en mesure de, ou ne veulent plus faire ou donner. Surtout en Amérique latine, on parle souvent de l'impossibilité de, d'être en couple avec une femme depuis le moment où les femmes se sont mises toutes à se révolter, disons. C'est ça, on en parle comme ça, quoi. Maintenant, elles veulent faire des études, maintenant, elles veulent voyager, maintenant, elles veulent faire des enfants à 40 ans et pas à 20. C'est impossible pour eux, quoi. Enfin, c'est ce qu'on nous dit souvent. C'est le discours, pas uniquement machiste, hein, je dirais que très généralisé. Est-ce que c'est plus facile, l'amour entre les femmes ?
Non, je crois pas. Je crois que c'est difficile de rester ensemble. Enfin,
deux êtres humains, quel que soit
le sexe. Une fois qu'on a le choix, parce que ce qui est nouveau, c'est pas tellement le féminisme, c'est d'avoir le choix de divorcer ou pas, et de, que ce soit pas, que ce soit courant. Une fois qu'on a le choix, je pense que c'est difficile de rester amoureux et heureux avec la même personne longtemps, quel que soit le sexe. Et quel que soit le... Ce qui est nouveau, je crois que là-dessus, il me semble, c'est pas tellement le féminisme ou est-ce qu'on est homosexuel, hétérosexuel, c'est que maintenant, on peut se séparer et qu'à partir du moment où on peut se séparer, sans encourir, enfin, sans que ce soit un drame, ben, on se sépare, quoi. Et non, là-dessus, je crois que malheureusement, non, c'est pas... Enfin, pour les gens qui chercheraient une stabilité affective, je crois pas que l'homosexualité soit une solution en soi, quoi. Mais c'est une option géniale, par contre, me semblerait intéressant, parce que là, pareil, en France, en ce moment, il y a toute une terreur qu'on apprenne aux enfants qui puissent être homosexuels. Moi, je trouve qu'on devrait apprendre aux enfants que c'est une option, parce que c'est éventuellement génial, quoi.
Okay. Yeah. Okay. Bueno, ni una pregunta más. ¿Ya se puede? Bueno, pues terminamos esta conversación tan interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Venido.